RCF.
RCF, il est 19h. Le journal, Jean-Baptiste Labeur.
Bonsoir à toutes et à tous. Surveiller les dépenses à l'euro près et protéger les Français de l'inflation. Le gouvernement a présenté ce matin son projet de budget. On y revient dans un instant. Le choc italien avec la victoire de l'extrême droite aux législatives, elle fait peser toutes sortes d'incertitudes en Europe. Et puis une mission spatiale inédite, cette nuit, si tout se passe bien, une sonde de la NASA va percuter un petit astéroïde. Le gouvernement a donc présenté ce matin son projet de budget 2023 pour contenir le déficit public à 5% du PIB. Ce projet de loi de finances table sur une hausse des dépenses inférieure à la hausse des prix, mais aussi à une croissance économique de 1% l'an prochain, des prévisions supérieures aux prévisions de la Banque de France. La priorité absolue est désormais de faire baisser l'inflation et de protéger nos compatriotes dans ce contexte, estime le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui est revenu notamment sur la question du bouclier énergétique.
Le bouclier énergétique coûtera 16 milliards d'euros aux finances publiques en 2023. 11 milliards pour le gaz, 5 milliards pour l'électricité. Une grande partie de ce bouclier énergétique est financée par le reversement de ce que les entreprises énergétiques touchent avec des bénéfices qui sont faits grâce à la flambée des prix de l'électricité et des prix du gaz. Les énergéticiens reverse déjà mécaniquement le produit de cette rente au budget de l'État. Le dispositif qui a été retenu en Europe est donc déjà appliqué en France. Nous ne voulons pas de nouveaux impôts, mais nous refusons les rentes. Et dans les courants des mois qui viennent, comme ils l'ont fait depuis plusieurs mois, toutes les entreprises énergéticiennes, sans exception, reverseront le produit de cette rente au budget de l'État pour nous permettre de protéger nos compatriotes.
Et la plupart des ministères vont voir leur crédit augmenter l'an prochain, à commencer par le premier d'entre eux, l'Éducation nationale, qui va gagner 3,7 milliards d'euros. Le gouvernement prévoit aussi la création de plus de 10 700 postes supplémentaires de fonctionnaires l'an prochain. L'État va aussi créer 5 900 places d'hébergement destinées aux réfugiés et demandeurs d'asile dans certains centres d'accueil et d'hébergement d'urgence. Ce projet de budget doit maintenant être examiné par l'Assemblée nationale, où le gouvernement, je vous le rappelle, n'a pas de majorité absolue. Du côté de la réforme des retraites, l'exécutif décidera d'ici la fin de la semaine s'il inclut ou non la réforme des retraites dans le projet de budget de la Sécurité sociale. C'est ce qu'a indiqué ce matin la Première ministre Elisabeth Borne sur BFM. Le prix moyen du paquet de cigarettes va lui progressivement atteindre les 11 euros. La Première ministre l'a indiqué également ce matin. 50% de plus en 2023, 35 centimes en 2024, et ce pour suivre l'inflation et poursuivre la lutte contre le tabagisme. La question de la fin de vie maintenant, on le sait, une convention citoyenne débutera sur le sujet en octobre. Et ce matin, une délégation de représentants religieux a rencontré Agnès Firmin-Lebaudeau, la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Emmenée par Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes et responsable du groupe bioéthique à la CEF, une réunion sur la méthode choisie par le gouvernement, l'occasion pour l'Église catholique de faire entendre sa voix 15 jours après l'avis favorable du Comité consultatif national d'éthique en vue d'une aide passive, une aide active à mourir. Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours et vice-président de l'épiscopat, faisait partie de cette délégation ce matin. On l'écoute.
Nous avons aussi souligné que nous étions un peu surpris d'une loi, 6 ans après la loi précédente, la loi Claeys-Leonetti, qui avait trouvé, on va dire, une certaine forme d'équilibre, mais dont nous mesurons bien qu'elle n'est pas mise en œuvre et qu'il y a vraiment une carence de l'État. Il ne s'agit pas de faire une loi nouvelle dans une sorte de marche en avant parce que on n'est pas capable de former les gens en matière de soins palliatifs, d'ouvrir les unités dont on a besoin. On a quand même 26 départements manifestement où ces unités n'existent pas. Et puis aussi d'accroître l'information auprès de nos concitoyens. Qu'est-ce que c'est que le suicide assisté? Qu'est-ce que c'est que l'euthanasie? Il y a une vraie nécessité d'information et tout ça c'est du préalable. Nous avons bien sûr dit, nous, notre grande question qui est celle, bien sûr, de ce basculement civilisationnel, de cet élément de la mort et de la vie, et cette question en particulier du tuera-point qui structure quand même notre civilisation depuis pratiquement 2 millénaires.
Et les évêques qui appellent les catholiques à se mobiliser dans le cadre de cette convention citoyenne, un sujet qui sera également sans doute au menu des discussions entre le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, et Emmanuel Macron ce soir à l'Élysée, une rencontre prévue de longue date. Politique maintenant avec le psychodrame qui se poursuit chez les Verts. Le patron du parti, Julien Bayou, a démissionné ce matin de la direction du parti et de la présidence du groupe des Verts à l'Assemblée nationale. Le patron d'Europe Écologie Les Verts est mis en cause par Sandrine Rousseau pour de possibles violences psychologiques à l'encontre de son ex-compagne. Et cet après-midi, Marie Dauzé, l'avocate de Julien Bayou, a affirmé qu'il a été la cible de pression, de chantage et de menaces de la part de son ancienne compagne. Elle a nié toute violence et critiqué une procédure interne au parti qui, à ses yeux, ne respecte ni les principes démocratiques élémentaires des droits de la défense, ni le respect du principe du contradictoire.
Aucun fait précis n'est jamais mentionné, et pour cause, mais on se plaît à évoquer des prétendus comportements de nature à briser la santé morale des femmes, qui pour autant ne seraient pas pénalement répréhensibles. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Julien Bayou n'a jamais exercé la moindre violence psychologique à l'égard de ses compagnes. Jamais. Il exècre toute forme de violence et de domination. Les séparations avec ses compagnes ont parfois été douloureuses, d'un côté, de l'autre ou des deux. Une rupture est souvent source de souffrance, pour lui comme pour chacun d'entre nous. Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre, et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
Julien Bayou, qui n'était pas présent à cette conférence de presse, il s'exprimera plus tard, a indiqué son avocate. Autre feuilleton politique à Saint-Étienne, cette fois le conseil municipal a été houleux cet après-midi. Empêtré dans une affaire de chantage à la vidéo intime, Gaël Perdriau a essuyé des demandes répétées de démission de la part de l'opposition, mais aussi de certains membres de sa majorité. Il estime toutefois être encore en mesure de présider le conseil municipal de la ville et dénonce un lynchage médiatique. L'Union européenne espère ce soir une coopération constructive avec le prochain gouvernement italien. Au lendemain de la victoire de la coalition des droites menée par Giorgia Meloni, son parti Fratelli d'Italia est devenu la première formation politique de la botte. Avec 26% des voix, la leader d'extrême droite revendique déjà la direction du prochain gouvernement. Elle va maintenant négocier avec ses alliés Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Cette élection pourrait aussi avoir des conséquences sur le lien entre l'Italie et la France, explique Hervé Marseille, sénateur centriste des Hauts-de-Seine. Il préside le groupe d'amitié France-Italie au Sénat. Il était l'invité de la matinale sur RCF avec Clara Gabillet.
Madame Meloni a adouci ses positions vis-à-vis de la communauté européenne, vis-à-vis de Bruxelles. En revanche, elle est assez critique et vertement critique vis-à-vis des Français, et notamment de M. Macron. Elle attaque la France sur ses positions en Libye, sur ses positions sur l'immigration, parce qu'il faut voir que c'est un sujet extrêmement important en Italie, qui est une des raisons d'ailleurs de l'élection de Mme Meloni. Elle joue contre les entreprises qui achètent beaucoup d'entreprises italiennes, c'était le cas ces dernières années. Donc, il faut voir que les sondages montrent que la France a une mauvaise image en Italie. Nous aimons beaucoup les Italiens, nous avons une espèce d'affinité avec nos amis italiens, que nous considérons comme culturellement comme des frères, mais il faut voir que sur le plan politique, il y a un ressentiment vis-à-vis de la France en Italie. Et donc, elle joue de ce ressentiment, et il faut craindre que les choses ne se passent pas immédiatement très bien avec le président français.
Emmanuel Macron qui a dit respecter ce choix démocratique, le président français demande à continuer d'œuvrer ensemble en tant que pays voisin et ami. Fin de citation. 261 000 hommes auraient déjà quitté la Russie depuis l'annonce de la mobilisation partielle selon le FSB, les services secrets russes. Et l'accueil de ces déserteurs divise les pays de l'Union européenne. Si la plupart se sont rendus en Turquie, dans le Caucase ou en Asie centrale, il y en a beaucoup qui tapent à la porte de l'Europe, comme en Finlande. Et les 27 s'interrogent quel statut leur accorder. Une réunion de crise rassemblant les ambassadeurs des 27 a lieu en ce moment même à Bruxelles pour tenter de trouver une solution, Étienne Pépin.
La République tchèque, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie refusent d'accueillir des Russes sur leur territoire. Les trois pays baltes ont même décidé de fermer leurs frontières, tout comme la Finlande, qui craint notamment que l'ouverture de la frontière ne permette à des agents de Vladimir Poutine de pénétrer directement dans l'Union européenne. En Allemagne, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz s'est dit favorable à accueillir les déserteurs russes, mais au cas par cas, pour ne pas mettre à mal le système de sanctions décidé par l'UE contre le Kremlin. Pareil pour la France. Vendredi, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a estimé qu'il fallait répondre au désir d'une grande partie de la population russe d'exprimer ses opinions et parfois de quitter la Russie pour venir sur le reste du continent. Enfin, le président du Conseil européen, Charles Michel, lui, appelle les pays de l'Union européenne très rapidement à coopérer et à se coordonner. C'est l'objectif de la réunion des ambassadeurs d'aujourd'hui. En cas d'entente sur l'accueil des déserteurs russes, l'Union européenne pourrait revenir sur sa décision début septembre de suspendre un accord de facilitation des visas avec la Russie.
C'est ce qu'on appelle un test grandeur nature. Cette nuit à 1h14, une sonde va percuter un petit astéroïde baptisé Dimorphos. L'objectif, tenter de voir si l'on peut dévier un astéroïde qui menacerait la Terre. Et pour les scientifiques comme pour le grand public, c'est le plongeon dans l'inconnu. Patrick Michel est l'un des membres de cette mission. Il est directeur de recherche au CNRS, à l'Observatoire de la Côte d'Azur.
On ne sait pas ce qui va se passer. Déjà, le premier test qu'on veut vérifier, c'est si effectivement une sonde est capable de se diriger par elle-même pour taper dans un corps dont on ne connaît que la taille et même pas sa forme et encore moins sa structure. Et le résultat, donc déjà, ça, c'est un test technologique et le résultat de l'impact lui-même dépend sensiblement de la structure de l'objet qu'on ne connaît pas et les modélisations d'impact que nous avons faites, nous disent que selon la structure, on pourrait faire un cratère qui fait 20 mètres de diamètre jusqu'à complètement déformer l'objet, c'est-à-dire même pas laisser un cratère, complètement le transformer et, la déviation elle-même dépend effectivement de cette structure aussi. Donc en fait, on est un petit peu à l'aveugle. Et ce qui est formidable, c'est que on va retransmettre au public en direct les images. Et donc, on va découvrir, nous les scientifiques, avec le public en même temps, qu'est-ce que ce petit corps qui fait à peine 160 mètres de diamètre dans l'espace.
Voilà, et puis un petit mot de sport pour terminer. Au mondial de basket au Japon, les Françaises se sont qualifiées pour les quarts de finale en battant les Japonaises 67-53. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur RCF.